La deuxième partie ce matin, c'est la vision de l'Église. Et donc, je vous ai dit, enfin, on a partagé les choses sur l'Église. Donc, sachez que Dieu, et ça a été dit pendant la Sainte Cène, Wilfried nous a dit, Jésus est descendu sur cette terre. Et il y avait un but. Dieu avait un but. Il a envoyé Jésus, pourquoi? Pour que toi et moi, vous et moi, nous soyons sauvé. Amen. Et il n'y a pas que nous ici dans cette salle, mais aujourd'hui, en France, par exemple, dans chaque ville, plusieurs églises se réunissent pour adorer Dieu. En Europe, dans le monde entier, même avec le temps, voilà, qui n'est pas le même, il y a les décalages. Dans certains pays, c'est la nuit. Dans d'autres pays, ils sont déjà plus loin. Et puis partout, dans le monde entier, il y a un peuple qui adore Dieu, qui loue Dieu, qui sert Dieu, parce que Dieu, le Père, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quelle joie, quelle bénédiction. Est-ce que vous réalisez vraiment que vous êtes passé de la mort à la vie? Dites les uns aux autres, qu'est-ce que tu es béni? Tu es un enfant de Dieu. Donc, Jésus est venu ici, c'est pas tout simplement... Il a guéri les malades, il a annoncé des bonnes paroles, et puis ensuite, oui, il s'est fait crucifier à la fin, c'était terrible. Mais il est venu, donc, comme je vous ai dit, Dieu a envoyé Jésus parce que Dieu avait un but, et Jésus, lui-même, la première chose qu'il annonce, je vais construire quoi? Mon église! Il a même dit, à un moment, à plusieurs autour de lui, détruisez ce bâtiment, donc c'est un bâtiment qui a été construit par en temps de roi David, avant. Et il dit, construisez, démolissez ce bâtiment-là. Donc quelque part, ce bâtiment signifiait, enfin, représentait, voilà une religion, l'Ancien Testament, etc. Donc là, la même chose, nous, dans notre vie, il y a tellement de choses à détruire dans notre compréhension, dans nos habitudes, dans les traditions, au niveau de la religiosité. Beaucoup de choses à détruire. Et puis, on accepte Jésus et avec lui, nous construisons cette église-là. J'ai construit mon église, d'accord? Il est le constructeur. Il a des ouvriers, d'accord? Et aussi, on doit chercher le matériel, les âmes pour construire, les briques, les poutres pour construire un bâtiment spirituel. Tu es une brique, tu es une poutre, tu es un élément important, et moi aussi, ensemble. Et nous formons une habitation, un temple, pour que Dieu puisse habiter en nous. Amen. Donc, regardez l'importance. Et combien c'est important de chaque matin, on se réveille, Seigneur, est-ce que je suis vraiment digne d'être habité par toi? Alors, on fait un nettoyage dans nos pensées, dans nos expressions. On lui demande pardon, Seigneur, pour mes imperfections. Moi, souvent, je fais ça. Parce que je sais que je ne suis pas parfait. J'ai pu dire des choses, j'ai rêvé peut-être des choses. Voilà, l'ennemi nous attaque. Quelquefois, voilà, on est touché un peu par l'impureté dans certaines situation, et puis chaque fois, Seigneur, accorde-moi ta grâce, pardonne-moi, mes imperfections. Je ne suis pas parfait, mais je t'en vais la perfection et je vais vivre avec toi pour l'éternité. Donc, en tant que l'église locale, nous sommes une église locale. Donc, je vous ai déjà dit, pour ne pas dire « moi, j'ai décidé », non, parce que chaque fois, on était avec d'autres. Voilà, des personnes, et puis on se présente devant Dieu, on lance un groupe, on lance une église, on lance une famille d'église. Et puis là, la même chose, on veut vraiment être sérieux devant Dieu. On ne veut pas mentir les autres, on ne veut pas se tromper même se tromper. Quelle importance pour celui qui prêche, qui nous conduit dans cette vérité, celui qui nous conduit dans la louange, celui qui a une responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Quelle est l'importance? Parce qu'on sait qu'on est là devant Dieu. C'est sérieux, on ne peut pas tricher, on ne peut pas juste jouer comme ça, à la légère avec Dieu, mais on est là sérieux parce que Dieu est avec nous. Donc voilà, on a déterminé une vision pour notre église et elle est affichée là-bas dans l'entrée. J'ai pensé à ça, mais hier on était occupé ici, j'ai oublié. Voilà cette vision qui est écrite « Gagner une âme, susciter un ministère, excusez-moi, et quoi, troisièmement, voilà, il formait, implanter une église. Une église, c'est toi et moi, et l'église, c'est nous. Et Dieu habite dans cette église-là. Donc, et cette vision, donc sauver les âmes, former des ministères, des serviteurs, implanter des églises, cette vision fait partie aussi de notre famille. Nous avons donné plus loin. Voilà, on a donné. On n'est pas égoïste, on ne peut pas juste garder une vision pour nous-mêmes. Et donner pour notre fédération d'église. Voilà, parce que c'est ce que nous avons compris. La vision est toujours la même. C'est le but vers lequel nous allons, d'accord? On peut l'exprimer d'une certaine façon, différemment. Chacun exprime. Et d'autres, il y a des églises où il n'y a pas de vision. On ne parle pas de la vision. C'est la communion fraternelle. C'est Alléluia, merci Seigneur. C'est très bien, je ne suis pas du tout critique, mais la Bible nous dit que s'il n'y a pas de vision, voilà, le peuple meurt. Si on ne sait pas où on va, voilà, on tourne un peu en rond, et puis après, il y a les difficultés, les problèmes entre les chrétiens s'installent, et puis ça devient un club chrétien. On ne voulait pas ça, et on ne veut pas ça. On veut que nous puissions savoir où on va. Donc, vous voyez là-bas, on a mis sur le mur une expression, laisse-toi guider par quoi? Par l'essentiel. Qu'est-ce qui était l'essentiel? C'est Jésus. Amen. Et puis donc, nous avons découvert dans la parole de Dieu une vision. Et puis tout de suite, nous allons lire la parole de Dieu. Donc, les Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 42 à 47. Et on va retirer de ce texte-là quelques pensées, voilà. Quelques pensées importantes, d'accord? Donc, qui peut lire? Voilà, je ne sais pas si j'ai la même traduction.
La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Voilà, donc déjà là, vous voyez, on va découvrir plusieurs objectifs qui nous conduisent vers la vision, mais déjà là, on commence avec cette parole de ce que les apôtres vivaient. Donc on parle ici que le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés, d'accord? Et qu'est-ce qui se passait ensuite? Il louait Dieu, donc il y avait la louange, il y avait la célébration, il y avait l'adoration. C'était le moment où on développait une relation personnelle avec Dieu. Donc, tout au début, l'Église primitive. Ils se retrouvaient dans la communion fraternelle. Vous avez entendu, ils étaient ensemble, ils partageaient les choses. Ils étaient là ensemble. Voilà, c'était la communion fraternelle. C'était tellement, tellement fort. Et combien nous avons besoin aussi de toutes ces choses-là. Mais on va revenir. Donc, ils se faisaient enseigner aussi par les apôtres. Vous avez entendu, là, qu'il y avait les apôtres et les hommes de Dieu que Dieu a donné pour l'Église. Ils étaient là pour enseigner, pour partager, pour encourager le peuple. D'accord? Et puis aussi, donc, surtout aussi, il y avait l'enseignement, la formation, la propulsion, voilà, la délégation, parce que là, on voit après comment on a délégué, envoyé, voilà, et ça, moi, j'aime bien, voilà, quand on parle, voilà, je reçois et ensuite je donne. Je reçois et j'envoie. Ça, j'ai toujours vécu un peu avec, dans cet état d'esprit, voilà, pour, pas juste pour moi, pas juste nous, pas tout simplement moi, mais oui, moi, j'ai besoin. Donc, au début, je suis un peu égoïste, mais ensuite, ce que j'ai reçu, je multiplie, j'envoie plus loin. Amen. Voilà, c'est ce que nous vivons. D'accord? Donc, le premier objectif pour atteindre cette vision, pour gagner les âmes, pour susciter le ministère et puis construire une église ou implanter une église, c'est l'évangélisation. Donc, Matthieu 28 et 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Profond tout ça. Hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On garde un petit peu ce verset pendant 2-3 minutes. Voilà, donc vous voyez, ça c'était la vision que nous découvrons dans ces paroles. Allez évangéliser. Évangéliser, ça veut dire quoi? Partager la parole de Dieu. Communiquer la parole de Dieu. Comme ça se fait déjà parmi nous. Vous voyez, vous avez invité les uns et les autres. Et à la fin, je vais vraiment insister là-dessus pour que cette année, voilà, nous puissions tous se mobiliser, engager pour se dire, Seigneur, je suis là, sers-toi de moi, envoie-moi chez quelqu'un qui a besoin vraiment de salut pour que je ne perde pas mon temps, mais pour que cette année, je puisse conduire en moi une âme à Jésus. Imaginez-vous, les amis, chacun d'entre vous, une âme, une année. Je suis aussi concerné, je ne sais combien, ce n'est pas facile. Seigneur, si tu nous conduis, si tu nous aides pour gagner une âme, bah, dans un an, l'Église sera doublée. Amen. Maintenant, même si on arrive à gagner une âme par couple, par le couple, c'est déjà à moitié en plus. Amen. Voilà, donc vous voyez, c'est tellement important. Donc, voilà, nous découvrons cette vision de gagner les âmes dans cette recommandation de Jésus qu'il a donnée déjà à ses disciples. D'accord? C'est bon. Donc, on est là, l'Église est là, pour communiquer la parole. Et puis, vous avez compris, déjà, tout au début, dans l'Église, ajoutant, le Seigneur ajoutait chaque jour. Allô? Le Seigneur ajoutait chaque jour. Ce n'est pas toi et moi qui allons ajouter, mais Dieu se sert de toi et moi, de nous, pour aller chercher les âmes. Et c'est nous qui sommes là pour ensemencer, pour arroser, et qui fait la croissance, qui fait grandir, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est une collaboration. Dieu, j'ai une part. à faire, quelqu'un d'autre une autre part à faire, nous sommes tous différents, mais c'est toi qui fais grandir, c'est toi qui sauve, c'est toi qui convainc. Amen. C'est fort, hein? Une collaboration avec Dieu. Je collabore, nous collaborons avec Dieu. Nous sommes en association dans ce travail avec lui. Donc, voilà, vous voyez, pour atteindre cette vision, déjà l'Église primitive, voilà, évangéliser, témoigner, communiquer la parole de Dieu. Et voilà ce qui se passait, c'est que Dieu ajoutait chaque jour les âmes. C'est fort, hein? Alors, Seigneur, conduis-nous dans cette perspective remarquable, spirituelle. Alors, qui est visé? Qui la cible? Nous ciblons qui? C'est une réalité sur le monde. Voilà. Nous sommes sauvés, d'accord? Donc, nous, notre cible, le cible, pour prêcher l'évangile, sur le monde qui ne connaît pas Jésus. Amen? Excusez-moi. Le monde. Et puis ensuite, est-ce que toi et moi, nous sommes concernés personnellement? Oui. C'est un élément personnel important, parce que le témoignage commence déjà par moi-même, d'accord? Oui, on peut... évangéliser avec les événements organisés comme nous faisons. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? On sort évangéliser, témoigner, mais avant tout, c'est ton attitude. Ton sourire, ta joie. Les gens, quelquefois, nous voient, mais si on est vraiment fermé, triste parce que nous avons des problèmes, c'est normal, c'est comme ça. Moi aussi, je suis passé par des moments où on était attristé. Parce qu'on passe par les épreuves, et les épreuves, quelquefois, nous tirent vers les bas. Mais l'objectif, c'est, même si on n'arrive pas à avancer, au moins résister. Je résiste, je ne recule pas. Je résiste, il y a les combats, il y a les tempêtes qui passent. Et quand ça passe, voilà, j'avance. Vous voyez ? Donc, avant tout, toi et moi, sur le plan personnel, nous avons une responsabilité devant Dieu. Seigneur, tu m'as sauvé d'une certaine façon, peu importe par quel témoignage, par qui nous a invités, comment ça s'est passé. D'accord ? Mais voilà, j'ai un style de vie spirituel dans la présence de Dieu, dans la prière, et ça parle. Je suis rayonnant, d'accord? Il y a quelque chose qui se ressent sur ceux dans le monde qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Donc vous voyez, c'est tellement important. Oh là là. Et dans tout ça, l'Église procure quoi dans tout ça? Le centre d'intérêt, nous sommes tous ensemble réunis autour d'un objectif. Voilà, on est ensemble, on est heureux, on est content, on est occupé, on se forme, on apprend. Hier, toute la journée, on avait une formation ici, il y avait trois orateurs qui intervenaient, tout le monde était heureux, content. On sent qu'il y a une soif, vraiment, parce qu'on veut apprendre les expériences des uns et des autres, des plus anciens, dans la foi aussi. Voilà, donc, quelque part, il y a le centre intérêt autour du spirituel de Jésus. Ce matin, on a prié ensemble, et j'ai pensé comme ça, ah ben voilà, il y a Claudine, il y a Anne, il y a quelqu'un d'autre, voilà, tout ça, d'autres se sont ajoutés, et je me suis dit, mais Seigneur, si tu n'étais pas dans notre vie, ben on ne serait pas là ce matin. On est bien d'accord? Mais ça, c'est parce que tout le monde, on était tous ensemble, quelques personnes. Et le centre d'intérêt, l'essentiel dans tout ça, c'est que nous nous sommes réunis autour de la personne de Jésus. Ce matin, nous sommes réunis. Est-ce que c'est pour la louange? C'est aussi important, on va voir ça ensemble. Est-ce que c'est pour la prédication? Est-ce que c'est parce que Alex, il est formidable, souriant, hein? Non, le centre d'intérêt. Nous sommes tous réunis ce matin. Parce que toi et moi, nous étions sauvés. Nous sommes réunis autour de la personne de Jésus. Et c'est tellement fort. C'est l'essentiel. Alléluia. Alors, Antonia, tu as dit un mot dans... Ah, elle est là. Dans la louange, je me suis appelé déjà. Ça m'a touché. Juste un mot. Voilà. Pas même pas trop écouté, et puis tout à coup il y a un mot. Excuse-moi. Et puis je me suis dit, elle aurait pu nous dire, recevez maintenant. C'était un moment comme ça de réception. Voilà, il y a des choses comme ça où on doit aller plus loin. Parce que le Saint-Esprit se mouve autour de nous, sur la culte. Et c'est bon tout ça. Voilà. Et ensuite, deuxième objectif, c'est l'adoration. Il faut que l'Église soit une Église adoratrice. Jean 4, versets 23 et 24 nous dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais, je répète, vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Alors, oui, c'est tellement connu pour nous, les anciens chrétiens, oui, digérons un peu, étudions un peu le mot, le vrai. Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis gracié? Est-ce que je suis pardonné? Est-ce que Jésus est vraiment dans ma vie, dans mon cœur? Est-ce que je désire vraiment développer une relation intime, personnelle avec Dieu? C'est ça d'être un vrai adorateur. Amen. Un vrai adorateur. Dieu est esprit et il faut que ceux qui adorent, qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, l'adoration, ça veut dire, c'est développer une relation personnelle avec Dieu, c'est exalter Dieu. L'adoration, c'est plus profond que juste la louange, où on loue les uns et les autres aussi, voilà, la louange. Mais l'adoration nous conduit encore plus en profondeur pour toucher les cœurs de Dieu. Oh, on n'est pas obligé même chanter pour adorer Dieu. Quelquefois, le moment arrive où je rentre vraiment dans une relation personnelle avec Dieu. Et dans mon cœur, je dis, je t'adore. Je suis en relation avec toi dans un moment intime. C'est l'intimité, intimité. Seigneur, mon Dieu, l'adoration. Souvent la louange nous conduit vers l'adoration. Voilà, et ça, l'Église est appelée aussi à être une Église qui loue, qui exalte, qui proclame, mais aussi qui adore Dieu, les vrais adorateurs. Parce que si chacun, individuellement, nous sommes adorateurs, tous ensemble, on est encore plus fort, voilà, pour dire, oui, je suis là, nous sommes là. Je ne suis pas là pour regarder les uns les autres, et lui, il prie plus fort, l'autre plus moins fort. Voilà, l'autre, il a les yeux fermés, il y en a un qui est assis, non, c'est plus profond, plus que ça. On est tous ensemble dans un moment d'adoration. Et l'Église, Voilà l'objectif de l'Église, c'est que ça soit donc une vraie adoration. Parce que les gens viennent, voilà, comme vous avez compris, l'Évangile est prêché, annoncé partout, mais les gens viennent pour qu'ils puissent ressentir, voir que la parole de Dieu que nous lisons, qu'ils lisent, qu'ils nous enseignent, ben, ils vivent. Ce n'est pas juste un peu, ben voilà. Actuellement, dans les églises, il y a aussi la fumée parce qu'on veut montrer qu'il y a le Saint-Esprit. Je ne suis pas contre, je ne suis pas du tout critique, pas du tout, pas du tout. Tout ce qu'on fait autour de nous, moi, j'ai béni. Mais quelquefois, je suis dans des moments comme ça où j'ai dit, Seigneur, on dit, Dieu est là, merci. Oh, Dieu est là. Et je tourne la tête et puis je regarde et puis je dis, est-ce que vraiment Dieu, tu es là? Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que c'est la parole. Il faut vivre. C'est plus que juste notre parole. Il faut vivre. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc l'Église, voilà, est une Église qui adore Dieu dans la vérité. D'accord? Et puis donc, là, on voit dans l'Église primitive, ils louaient Dieu. D'accord? Donc ça voulait dire, ils louaient Dieu. Ils étaient ensemble, ils adoraient Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit, d'accord? Et Dieu était là, voilà, c'est ce que souvent on parle avec Alexis, et je disais, Alexis, si Dieu n'est pas là, on arrête tout. Si Dieu n'est pas là, il n'y a rien qui se passe. Mais si Dieu est là, il y a des choses qui bougent, les démons tremblent, les démons reculent, tout ce qui est impur est brûlé par la puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu est là. Il y a des guérisons, il y a des changements, il y a des transformations. Alexis a cité tout à l'heure qu'il y avait une personne dimanche dernier, elle n'est pas là ce matin, voilà, on fait tout pour les aider. Elle était assise là-bas et j'ai vu que voilà, sa tête elle était comme ça, elle était tourmentée. Et puis elle a essayé de... Et pourtant, c'est parler bien, c'est pas la question moi, mais c'est le domaine spirituel, elle m'a contourné. C'est cet esprit d'opposition en elle, voilà, qui ne veut pas qu'elle puisse vraiment avancer et vivre la réalité de l'Évangile. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça. Quand il y a la présence de Dieu, quand Dieu est là, les puissances des ténèbres n'ont pas la place, leur place parmi nous. Amen. Amen. Voilà. Donc, l'Église louait Dieu, adorait Dieu. Donc, au niveau de l'Église locale, il est question de l'auditoire. Voilà, nous sommes concernés par cet objectif-là. Et ensuite, personnellement, je dois être, je me répète, personnellement, tout faire pour que je sois un vrai adorateur, personnellement. Voilà. Et puis ensuite, ça nous conduit... Quelle est donc l'Église, par les domaines de cet objectif, nous procure quoi? La force, parce que là où Dieu, là où est la louange, l'adoration, là où les gens sont là pour adorer Dieu, la Bible nous dit que Dieu siège, Dieu habite, Dieu est présent parmi la louange et l'adoration du peuple de Dieu. Alors, si Dieu est là, parce qu'au moment où on a commencé notre culte, je vous donne cet exemple-là, cette dame, elle a dû sortir une fois, elle a dû sortir deux fois, elle est revenue une troisième fois, parce que cette opposition diabolique en elle ne permettait pas rester dans un endroit où Dieu est là. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus que nous avons un Dieu tout-puissant? Et l'ennemi, il fait beaucoup de dégâts. Mais moi, je ne lui donne aucune importance. Pour moi, c'est que la poussière. À condition que Dieu est avec moi. Amen. Si Dieu n'est pas avec moi, alors, je suis dominé par l'ennemi. Donc, voilà. Par les billets d'une. Et c'est pour ça, au niveau de l'Église, on s'organise. C'est pour ça que bien c'est important, ce qui monte aussi sur l'estrade pour faire partie de leur louange. La même chose, soyez un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Soyez vrai avec Dieu. Il y a ton style de vie, ton sérieux, mais aussi ton engagement. L'Église, ce n'est pas Intermarché ou Auchan ou à côté d'autres magasins. Ça ne va pas ici, on va là, on va là. Non, l'Église, c'est ensemble. Et un département de la louange, de l'adoration est tellement important. Hein, je vous explique, c'est un objectif tellement important qui conduit l'Église. Les gens viennent nous voir, etc. C'est qu'il faut avoir une vie sérieuse devant Dieu. Je ne dis pas qu'il faut pleurer, toujours pleurer, non. Vous pouvez avoir la joie, mais vrai. Je suis engagé. Je m'organise en fonction des activités, en fonction de mes rendez-vous spirituels. Je m'engage en fonction de répétitions. Je m'engage en fonction de programmes. Voilà, le programme. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est important. Moi, j'y vois au niveau des prédications, je gère tout ça depuis déjà longtemps. Voilà, il ne faut pas qu'un dimanche, vous soyez là et puis finalement, il n'y a pas de prédicateur, il n'y a personne qui prêche. Pourquoi? Parce qu'il y a sérieux. Il y a un engagement. On s'organise. Et puis, quelquefois, je me souviens quand j'avais une vie professionnelle, je m'organisais aussi avec ma vie professionnelle. Je le savais que là, je devais partir parce qu'il y avait la formation. Il y avait des conférences. J'ai dû partir pour le week-end quelquefois. Donc tout ça, ça a été prévu et c'était organisé en fonction de spirituel, mais aussi en fonction du travail. Pas juste, cinq minutes avant, il y a aussi un prédicateur qui m'appelle. J'ai toujours accepté et j'ai toujours dit à un prédicateur, même en dernier moment, tu me dis, j'ai eu un accident pour aller au culte. Je suis malade, je suis tombé malade la nuit. Pas de problème. Moi, je me lève et je prêche. Je n'ai pas de problème avec ça, avec mon expérience, toutes ces années derrière moi. Vous comprenez? L'Église est tellement importante. Un domaine tellement important. Dans tous les domaines. Et puis d'autres départements dans l'Église. Voilà. Quelquefois, je vois Anne, quand on est là ici, puis je vois Anne, elle nettoie toute seule. Et puis tout doucement, je me renseigne comme ça, par derrière. Ah ben, celle-là, elle n'est pas venue, l'autre n'est pas venue, sur toi, je suis toute seule. Je parle pour toi. Hein. C'est pas pour toi, Anne. Mais combien tu es courageux. Est-ce que vous avez compris? Ça, ce sont des objectifs qui nous conduisent vers la croissance, vers la vision. Ensuite, troisième objectif, l'évangélisation, adoration, la communion fraternelle. Et après, il va me rester encore le quatrième et cinquième, mais je ne vais pas finir aujourd'hui. La communion fraternelle, donc nous avons lu dans le premier texte, il y avait la communion fraternelle dans l'Église primitive. Est-ce que vous avez vu ça? Ensemble, partager les choses. La communion fraternelle, on se parlait. Souvent, il y a des personnes qui viennent chez nous ici. J'ai déjà parlé avec quelqu'un. J'ai fait une église, une deuxième église. On ne m'a même pas dit bonjour. Je suis venu ici. On nous présente même devant tout le monde. Oh, j'écoute ces gens-là qui viennent parce que j'essaie d'apprendre, j'apprends toujours, encore aujourd'hui j'apprends. Ça va, comment faire mieux que ça? Comment on peut s'améliorer? Je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Donc ça veut dire que nous tendons vers la perfection dans chaque domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai dit très bien, mais chaque fois je répète. Vous savez, Il y en a peut-être quelques-uns avec qui on a parlé de cette façon-là. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas les meilleurs, même si on est quand même bon. D'accord? Donc, la communion fraternelle, partager, s'accepter les uns les autres, on traite ces sujets beaucoup à la formation, parce qu'on a compris que l'état d'esprit est tellement important. Comment s'accepter? Travailler en équipe, ce n'est pas toujours facile. Voilà, on est tous différents, on s'exprime différemment. Comment faire une équipe qui fonctionne bien? Tout ça, on traite, on parle. Parce que souvent, ça explose comme ça facilement, parce qu'on ne s'est pas compris, parce que pour des petites choses. Donc, voilà la communion fraternelle. Cette communion, on retrouve à l'Église primitive. Ils étaient tous ensemble. Et cette communion fraternelle concerne l'Assemblée, amen, l'Église, tous ensemble. Ce n'est pas juste quelques-uns. Vous savez, j'ai parlé aujourd'hui avec Jacob ce matin. Jacob, il est là. Jacob, il est là-bas. Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui s'intéresse avec toi. C'est vrai qu'on n'est pas là pour régler les histoires administratives, les papiers, etc. Mais parmi vous, quelques-uns, vous avez des expériences et vous pouvez aider, conseiller peut-être. Jacob est là, il a besoin d'un soutien. Pour que nous puissions aussi le guider plutôt que nous n'avons aucun pouvoir administratif, ou presque, voilà, aucun pouvoir. Mais pas mal de personnes, vous avez passé par des moments difficiles et vous pouvez donner un conseil. Alors Jacob, il est au blanc là-bas comme un ange. Lève-toi, Jacob. Voilà, vous pouvez lui demander, vous pouvez l'encourager, mais vous pouvez aussi lui donner des conseils. Un exemple. Voilà, donc l'Église, c'est ça. Et puis ensuite, l'Église procure quoi dans ce domaine-là? Nous formons quoi? Une famille. Une famille. Si la Bible nous parle des enfants, nous sommes des enfants de Dieu, d'accord? Les enfants ont les frères et les sœurs, ça fait une famille spirituelle. Je suis conscient que quelquefois, nous sommes même dans un autre pays, on observe, on regarde, la culture n'est pas la même, etc. On regarde comment faire pour ne pas brusquer les personnes là. Mais au moment où on se réunit autour de la personne de Jésus, voilà, quelque chose est au coma. Amen. Voilà donc pourquoi, parce que nous sommes une famille spirituelle. Très bien, donc juste deux, trois mots concernant la formation de disciples. Je vous ai dit, on était là hier pour encourager les étudiants, une vingtaine avec les personnes à distance, ce sont peut-être 25, hein, c'est ça, à peu près. Donc, on fait la formation. Ça veut dire qu'on ne fait pas la théologie. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous faisons la théologie pratique. Comment pardonner? Comment accepter celui qui est différent que moi? Comment réunir les talents, différents talents? Comment l'Église peut te servir de toi parce que tu as des talents? Tout ça, on forme pour éviter des conflits quelquefois que nous n'avons pas besoin. Voilà, donc, et pour que cette formation, à la suite de cette formation, les personnes deviennent des disciples. Comme Alex hier voulait nous dire que pour qu'on puisse devenir ouvriers, d'accord, ouvriers, la formation. Et là, les apôtres, ils étaient là, ils enseignaient, ils formaient ces personnes-là. Et puis ensuite, on les a envoyés parce qu'ils étaient capables d'annoncer l'Évangile, prêcher l'Évangile, aborder les choses démoniaque, impur, chasser les démons, guérir les malades, etc. Et ce n'est pas toujours facile. Je me souviens, quand on était au début, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et souvent, on a aidé, on a accueilli les gens à la maison, c'était à Roubaix. J'ai passé beaucoup de temps à prier pour les gens, un problème. Je me suis dit, je me souviens une fois, il y a quelqu'un qui est venu avec un couteau et dans son esprit, il dit, bah, moi je vais lui mettre le couteau dans son ventre s'il me parle de Dieu. Et qu'au moment où il est entré dans la salle, voilà, il était désarmé parce que Dieu était là. Dieu était là, il était désarmé, tout gentil. Pasteur Antoine, qu'est-ce que je peux faire? Comment faire? Est-ce que c'est possible? Il dit, je vous donne mon arme. C'était un couteau blanche, une arme blanche. Je l'ai gardé, ce couteau, moi, 10 ans sur l'armoire et après j'ai jeté. Voilà, je suis venu pour pointer le couteau dans le ventre. Et là, je vous le donne. Puis on a prié souvent pour les personnes qui avaient des problèmes démoniaques, etc. Et quand je vous dis, je n'avais pas beaucoup d'expérience dans ces données, je n'avais plus de voix, on a crié, on a hurlé, l'ennemi hurlait fort, ben nous, on voulait hurler fort. Et puis j'ai appris, pas comme ça. Si Dieu n'est pas là, ce n'est pas parce que je vais crier. Et ensuite, on a vécu les choses. On arrive à la maison. Et puis, il y avait 2 enfants dans une chambre. Et tout à coup, la nuit, on crie. Il y a des soldats. Alors, je me réveille, je rentre dans la chambre. Mais non, calme-toi, il n'y a pas de soldats. Et vous voyez des soldats. Vous voulez les tuer, etc. Premièrement, ils ont vécu ça. Et après, je me suis dit, il faut que je revoie les choses. Plus jamais, j'ai invité des gens comme ça à la maison, on a toujours fait à la salle. Et en même temps, j'ai changé ma façon d'agir, de faire, parce que j'ai vu, j'ai appris, j'ai compris comment faire, prendre l'autorité sur les puissances de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, on fait cette formation dont le but, ensuite, implanter des églises, agir, parce que l'église est un outil. Vous savez, si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il y a des personnes, même ici parmi nous, il y a certainement des personnes qui ont besoin d'aller plus loin. Il y a des personnes parmi vous qui ont besoin de se stabiliser, de construire encore mieux votre vie sur le beau fondement. Et ce matin, je ne vais pas faire un appel aujourd'hui, mais je vais vous demander tout simplement, vous lever.